presque 5 jours après, la Russie, la Turquie et l'Iran, alliés de Damas, qui vont continuer à travailler ensemble, ils l'ont dit hier. Les frappes occidentales sur les installations chimiques en Syrie sont inédites par leur ampleur. Mais 5 jours après, quel est le rapport de force et pour quel résultat politique? On en parle avec vous, effectivement. Ziad Majed, bonjour.
Bonjour Xavier.
Et merci beaucoup d'être au téléphone avec nous, politologue, spécialiste du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Alors cette déclaration arrive un peu comme une deuxième réponse à Emmanuel Macron, après déjà la réplique du président Erdogan, quand Macron disait avoir réussi à séparer la Turquie de la Russie. Je rappelle que l'attaque sur Douma, qui a gazé 40 personnes au moins le 7 avril, a été un peu le point d'orgue de la reprise de la Ghouta, au prix de 1700 morts et près de 160 000 personnes déplacées. Et qu'en frappant la Syrie après cette nouvelle attaque, eh bien les Occidentaux ont fait un calcul. D'abord, sur un plan tactique, ils mettent fin à un soupçon d'incapacité et peuvent infléchir leur rapport de force. Sur un plan politique, ensuite, en agissant hors mandat de l'ONU, ils montrent à la Russie, en quelque sorte, le danger d'une situation incontrôlée et peuvent paradoxalement relégitimer un processus plus large, le forcer. En tout cas, le général McMaster a prédit un grand changement dans la manière dont le régime de Damas calcule, au point de forcer une négociation plus inclusive, peut-être. En tout cas, rien n'indique que le scénario de 2014, avec, on se rappelle, une première mission d'inspection de l'EIAC, ne se répète pas et que la guerre ne se prolonge pas. En tout cas, Ziad Majed, on apprenait hier enfin qu'après 4 jours d'attente pour des raisons de sécurité, comme le disait la Russie, eh bien les inspecteurs de l'EIAC ont pu rentrer dans Douma, mais pour y trouver quoi à voir, hein.
Alors, il faut savoir que c'est une attente imposée par le régime syrien et les Russes. C'est-à-dire, ils sont arrivés à Damas et ils n'ont pas eu l'autorisation d'aller à Douma. Douma, ville occupée par la police militaire russe et par l'armée du régime, où ces deux forces peuvent modifier pas mal de donnes sur la scène du crime afin d'éviter des conclusions précises de la part de la commission internationale. Mais en même temps, il y a toujours des possibilités pour cette commission de travailler avec beaucoup de personnes qui ont quitté Douma après l'attaque chimique, ceux qui ont été déplacés et dont certains, paraît-il, ont réussi à amener avec eux des échantillons d'urine, de sang, des cheveux, de même que des échantillons du sol qui montrent qu'il y a bien eu, là où ils étaient, une attaque chimique. De toute façon, cette organisation, cet organisme a déjà accusé directement le régime syrien de plusieurs attaques. Il y a eu des enquêtes à plusieurs reprises qui ont toutes montré que c'était le régime à l'origine des attaques. Et même s'il y a aujourd'hui une nouvelle accusation, de toute façon, les Russes avaient bloqué le mécanisme international l'année dernière lors de la publication du rapport qui condamne le régime par rapport à l'attaque de Khan Cheikhoun au nord du pays. C'est quand même un travail important de documentation pour montrer encore une fois qu'il y a des crimes contre l'humanité commis en toute impunité en Syrie. Et donc c'est à la fois important à long terme pour tout processus procédure juridique, et c'est important symboliquement maintenant pour essayer de montrer que quand même il y aura un suivi, même si Damas et Moscou font tout pour bloquer ce travail et le rendre impossible.
Et même si en un sens la preuve de l'implication du régime dans des attaques chimiques n'est plus à faire dans ce cas-ci, elle doit être faite, c'est un enjeu politique, et même si cette enquête n'a pas pour but de désigner des responsables, si on comprend bien.
Oui, en fait, la Russie a toujours bloqué toute résolution qui accuse ou qui condamne. Ils veulent dans les conditions qu'ils émettent pour ne pas utiliser le veto, que les commissions d'enquête ne désignent pas les coupables, mais juste vérifient s'il y a eu usage d'armes chimiques ou pas. Mais en même temps, suite à ce travail-là, il y a d'autres organismes et d'autres enquêtes qui travaillent sur les preuves, qui travaillent sur la qualité des armes utilisées et qui ont à plusieurs reprises montré la responsabilité du régime syrien. Donc ça reste quand même un travail important. Mais il faut savoir que le problème de tout ce travail-là et de toutes les réactions internationales, si elles ne sont pas suivies de clarté politique, s'il y a toujours des ambiguïtés par rapport rapport aux négociations, par rapport à la position que certaines capitales prennent par rapport à Damas, par rapport à Moscou, par rapport à Téhéran. Tout cela, c'est pour les Russes et pour Assad un gain de temps afin de modifier davantage la situation sur le terrain et de passer d'une région à l'autre. Donc il y a eu Alep-Est, puis il y a eu la route de Damas. Il y a d'autres cibles prochainement.
C'est ça, deux offensives qui ont été annoncées dans le sud, sur Yarmouk, et puis une ville toute proche, dont j'ai oublié le nom, mais où se trouve le front al-Nosra.
Oui, il y a dans la banlieue sud de Damas, il y a encore des quartiers qui échappent au contrôle des Russes et des Iraniens et de leurs alliés sur place, c'est-à-dire ce qui reste du régime syrien. Et ils ont tout intérêt à les récupérer et militairement, c'est possible puisque ce sont des zones isolées depuis très longtemps. Daesh maintient toujours une petite poche là-bas qui n'a jamais été inquiétée par le régime avant, donc maintenant c'est un bon prétexte pour attaquer cette zone-là. Mais il y a également d'autres poches entre Homs et Hama, entre Hama et Idlib, et puis il y a toute la région de Idlib, de même que toute la région de Deraa au sud, même si là-bas c'est plus compliqué et c'est une autre histoire. Mais quand même, les Russes et les Iraniens montrent une fermeté, tandis que dans l'autre camp, mis à part cette frappe qui a été très limitée et qui n'a pas eu de conséquences militaires importantes, les ambiguïtés et les décisions qui ne semblent pas s'inscrire dans une dynamique politique sont toujours là. Donc je pense que l'important maintenant, c'est de construire une dynamique politique après la frappe occidentale contre le régime syrien, pour dire aux Russes que si vous voulez négocier sérieusement, il faut faire des compromis et non pas négocier pour négocier ou bien négocier pour gagner du temps et modifier les rapports de force davantage sur le terrain pour imposer après votre solution, c'est-à-dire l'écrasement de la société syrienne pour maintenir un pouvoir qui vous est loyal et qui exécute vos ordres.
Et vous y croyez, disons, à ce point marqué face à la Russie, je le disais, c'est cette hypothèse d'une situation incontrôlée qui pourrait mener le Kremlin à redoubler de prudence, alors même qu'on voit que des sanctions qui avaient été promises ce week-end ne sont toujours pas prises par l'administration Trump, l'Union européenne qui dit attendre justement celle de l'administration Trump, un rapprochement entre Angela Merkel et Vladimir Poutine tout récemment hier.
Les Russes ont toujours fait des calculs considérant que le temps, s'il n'y a pas des décisions rapides dans le camp occidental, et puisque ce sont souvent des démocraties, et des démocraties qui prennent en considération au minimum, disons, leur opinion publique avant de prendre des grandes décisions, ils considèrent que plus il y a de l'attente, plus on peut créer des contradictions entre Paris et Berlin, Paris et Londres, Londres et Washington, etc. Assad et les Russes considèrent que une petite frappe comme celle-ci de temps à autre ne changera pas grand-chose. Ils crient au complot. Donc, ils ont la capacité de digérer des réactions de ce genre. Par contre, s'il y a maintenant une fermeté, s'il y a une volonté de montrer qu'aucune négociation n'est possible s'il n'y a pas une transition politique, comme le stipulait la décision à Genève en juin 2012, quand le processus de négociation avait commencé, s'il n'y a pas la fin de l'impunité et l'arrêt de l'usage du veto pour protéger le régime syrien et pour protéger les accusés d'avoir commis des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, je ne vois pas pourquoi Moscou va compromettre ou va accepter de négocier sérieusement. Pour le moment, tout se passe dans l'ambiguïté occidentale et le manque de fermeté a souvent encouragé et Assad et les Russes et les Iraniens à aller encore plus loin en Syrie et ça a encouragé Assad à commettre des crimes contre l'humanité, documenté maintenant par Amnesty, par Human Rights Watch, par les Nations Unies eux-mêmes, sans qu'il y ait vraiment une volonté de finir avec l'impunité une fois pour toutes.
Et puisque vous en parlez, justement, il faudrait expliquer quel sens est-ce que vous donnez à ces attaques chimiques qui, je le rappelle, sont répétées. En fait, il y en a eu plus de 130, ça c'était le chiffre de l'année dernière, depuis 2012 déjà. Il y en a qui ont beaucoup dit c'est une stratégie, par exemple, pour pousser des groupes rebelles à se radicaliser, briser toute possibilité d'accord. Vous penchez pour plutôt une autre interprétation, si je comprends bien.
Je pense qu'il y a plusieurs messages. Il y a premièrement le régime Assad et les Russes comptent toujours sur la question qui va tout de suite apparaître dans les milieux politiques ou même médiatiques en Occident. Pourquoi commettre un crime chimique au moment où il est en train de gagner, parlant du régime? Ils comptent sur ce genre de questions tout de suite pour mettre des doutes sur leurs responsabilités et pour se libérer d'un poids de justification, puisque comment on fait ce genre de crime bien qu'on est en train de gagner. En fait, non. La dictature syrienne a toujours fonctionné d'une manière qui a sa rationalité par rapport à la violence, mais qui n'est pas la rationalité des observateurs qui ne sont pas dans les têtes des dictateurs et des services de renseignement et de leur violence. Ils utilisent l'arme chimique pour briser psychologiquement leurs adversaires, pour dire à la population civile que voilà, nous sommes les maîtres de la mort et de la vie, nous sommes capables de vous tuer avec toutes sortes d'armes et personne ne pourrait vous sauver. C'est un message également à la base sociale qui continue à soutenir le régime, la minorité en Syrie qui soutient toujours Assad, pour leur dire n'ayez crainte, n'ayez peur de rien. On est tous impunis, on fait ce qu'on veut et nous sommes protégés. Et le maximum qu'il peut y avoir, ce sont quelques déclarations et peut-être quelques missiles qui ne changeront pas grand-chose. Oui. En plus, du côté du régime et des Russes également, ils décrédibilisent à chaque fois encore plus les capitales occidentales en montrant qu'elles sont incapables de faire respecter leurs lignes rouges et que les seuls maîtres du jeu sont les alliés du régime.
Eh bien, merci Ziad Majed, politologue, Université américaine de Paris.